Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute.
Dans le monde évangélique, les églises pullulent et des leaders de tout acabit sont au devant de la scène pour proposer toutes sortes de recettes de délivrance et de miracles. Beaucoup de ces églises sont complètement désengagées dans les affaires sociopolitiques, prêchant ainsi une vie heureuse dans l'au-delà, en niant volontairement les réalités terrestres et cosmiques de l'être humain. En d'autres termes, aujourd'hui, notamment dans les pays sous-développés, l'Église est perçue par plus d'un comme un mouvement spiritualiste ayant affaire avec des anges terrestres qui se ferment les yeux sur la misère, l'injustice, la corruption et la très mauvaise gestion de la cité. Ces gens finissent par comprendre que l'Église n'est pas en mesure de répondre à leurs aspirations de liberté, de bonheur, de développement et d'accomplissement de soi. Extrait de l'ouvrage « Le mandat ignoré, réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine ». Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Vous êtes à Je crois, donc je parle. C'est votre ami Wendell Benjamin Etienne. Nous avons aujourd'hui l'heureux privilège de recevoir à Abidjan, Côte d'Ivoire, un invité très spécial. Il s'agit de Kayode Raoul Balogun, qui vient du Bénin. Raoul, bonsoir et bienvenue à Je crois donc je parle.
Bonsoir, merci pour l'initiative de cet entretien.
C'est un plaisir de vous recevoir, comme je le disais. Par rapport à la lecture que je viens de faire, est-ce que vous auriez quelques commentaires?
Oui, merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, quand on analyse bien le monde, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a deux types d'églises, en fait. Il y a un type d'église qui ne tient pas compte réellement des besoins, voilà, des membres, disons, de ces églises-là, qui pensent qu'il faut uniquement prêcher le salut. Tout ce qui doit permettre de bien vivre sur terre, on ne s'y intéresse pas. Et c'est ça qui fait naître, en fait, le second type d'église où les gens proposent des miracles, proposent, disons, la prospérité. À ceux-là qui n'ont pas trouvé cette prospérité au niveau du premier type d'église. Et donc, du coup, on assiste à tant de dérapages, les gens sont perdus. Je crois que c'est tout à fait normal ce que vous avez écrit dans ce livre-là. Voilà, c'est cette situation qui amène à ces deux types d'église, en fait.
Wow. Merci pour vos commentaires. Vous venez du Bénin, vous travaillez avec une organisation, mais avant de creuser en profondeur, par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas plus précisément?
Ok, je suis, comme vous l'avez déjà dit, Kayode Raoul Balogun. Je viens du Bénin, je suis donc béninois. Et je suis marié, père de trois enfants, deux garçons et une fille. Voilà. Donc, je travaille pour une organisation locale qu'on appelle DEDRAS, Organisation pour le Développement Durable, le Renforcement et l'Autopromotion des Structures Communautaires. C'est une ONG chrétienne qui opère au Bénin, qui fait partie, je crois, des deux ou trois premières ONG au Bénin, les plus connues en tout cas. Voilà.
Wow, intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre conversion? Comment êtes-vous venu à Christ?
Il faut d'abord dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa et ma maman étaient chrétiens. Donc, chemin faisant, en allant à l'église, les messages qui sont donnés à l'église, à un âge donné, au fur et à mesure, à l'adolescence en tout cas, m'ont permis de comprendre que il ne s'agit pas seulement de suivre les parents pour aller à l'église, il faut s'engager également. Et c'est suite à cela que j'ai suivi les cours de baptême. J'ai été baptisé dans mon église locale à Parakou. Parakou est situé pratiquement au centre du Bénin. Donc j'ai suivi les cours de baptême. Et voilà, depuis ce temps-là, je me suis engagé vraiment à l'œuvre de Dieu.
Être un chrétien béninois, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Être un chrétien béninois, je sais que quand on dit qu'on vient du Bénin, ce n'est pas toujours évident. On pense tout de suite au vaudou. J'ai fait pas mal de voyages dans le monde. Chaque fois que les gens me rencontrent et que je leur dis que je suis béninois, on me demande « Ah, comment est-ce que le vaudou va au Bénin? Il semble que c'est fort chez vous. Pouvez-vous m'aider à faire telle chose? » Je leur dis que moi-même, je ne connais même pas le vaudou. Je ne suis jamais allé, voilà, consulter le vaudou. Donc, il y a déjà cette étiquette qui nous est collée. Mais bon, voilà, je crois qu'on fait avec. C'est vrai que Nous avons beaucoup d'adeptes du vaudou au Bénin. Nous avons également beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans. Chacun fait sa religion. Et nous, en tant que chrétiens, nous essayons, en tout cas, de travailler de manière à amener ceux-là qui ne sont pas chrétiens à venir vers Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas toujours évident. Quand on dit qu'on est béninois, on pense déjà tout de suite au vaudou. Nous avons donc un défi à relever, d'autant plus que l'État béninois, depuis 1990 ou 92, je crois, a institué une journée le 10 janvier comme journée des religions traditionnelles. Certains parlent de journée du vaudou. Ça veut dire qu'il y a un grand défi à relever pour nous qui sommes chrétiens et qui vivons au Bénin.
Comme vous savez, moi je viens d'Haïti et Haïti, le vaudou est très fort. Il y a même des intellectuels haïtiens, plus particulièrement, qui prônent qu'un Haïtien ou qu'un Africain ou un Afro-descendant n'a aucune raison d'être chrétien, considérant le christianisme comme étant une religion importée d'Europe. Que répondriez-vous à cela?
Je crois qu'ils ont leurs raisons, mais moi je pense pour ma part qu'ils roulent à leur tête. Je pense que le véritable chemin, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne venons au Père sans passer par moi. Et Jésus n'est pas dans le vaudou, n'est pas dans ces religions-là. Et nous ferons mieux donc de suivre Jésus-Christ, tout simplement pour espérer avoir, aller dans le royaume des cieux pour avoir le salut. Je ne crois pas que le vaudou soit le chemin qu'il faille suivre, en tout cas pour, voilà, pour espérer le salut. Donc, ils ont leurs raisons, voilà, mais je pense que, voilà, c'est toujours mieux, c'est mieux de suivre vraiment Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur.
Quel rapport y a-t-il entre, d'après vous, entre l'évangile et la culture? Comment un chrétien béninois vit sa foi chrétienne dans le contexte de sa culture?
Oui, c'est vrai que la culture parfois influe sur ce qu'on fait dans la religion. Je crois même que quand on prend la Bible, la culture juive influe dans une certaine mesure sur vraiment voilà, la religion, hein. Je crois que c'est à nous de voir vraiment à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible. Comment est-ce que nous faisons pour que notre culture n'influe pas négativement sur ce que nous faisons? Je prends par exemple la danse. Voilà, nous avons différents types de danse. Voilà. On peut utiliser toutes ces danses-là pour louer le Seigneur, par exemple. Voilà. Mais si nous devons faire des pratiques qui sont contre la parole de Dieu, là, je crois que si ces paroles sont culturelles, ces pratiques sont culturelles et sont contre, voilà, la parole de Dieu, nous devons faire vraiment attention. Ça veut dire que nous devons avoir, en fait, le discernement dans, voilà, comment on concilie la culture et disons, voilà, le christianisme et la religion, c'est très important. Prenons toujours la Bible comme modèle pour voir est-ce que, selon ce qui est écrit dans la Bible, voilà, en utilisant telle pratique de la culture, nous sommes en train de dévier ou bien nous sommes toujours sur la bonne voie. Je crois que si on procède comme ça, on utilise la Bible comme notre groupe, on ne va pas, voilà, faillir.
Donc, vous êtes de ceux qui croient que la Bible n'est pas en contradiction avec la culture.
Non, pas du tout. La Bible n'est pas en contradiction avec la culture. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui le pensent. Essayons juste de voir, hein, dans notre culture, il y a des éléments de la culture qui peuvent être en contradiction, c'est possible. Mais essayons de voir dans ces cas-là, comment est-ce qu'on extrait, j'allais dire, comme on le dit, l'ivraie, en fait, pour ne pas véritablement avoir une influence négative sur notre pratique, disons, chrétienne. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est très intéressant. Revenons un peu à ce que vous faites. Vous avez dit que vous travaillez dans une ONG chrétienne. Que faites-vous comme organisation chrétienne dans votre pays?
D'accord. Alors, il faut dire que DEDRAS a, disons, une mission. La mission de DEDRAS, c'est de travailler aux côtés des populations pauvres et vulnérables, surtout des communautés rurales, afin que ces communautés-là jouissent pleinement de leurs droits, tous les types de droits possibles. Et donc, en tant que tel, nous sommes. Voilà, nos cibles, tout d'abord, c'est essentiellement les jeunes, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes, voilà, les personnes handicapées. De façon globale, les personnes vulnérables, les producteurs agricoles, nous travaillons avec toutes ces couches-là de la population. En termes de domaine d'intervention, nous sommes dans le domaine de l'éducation, protection des enfants et la formation professionnelle. Nous sommes dans le parrainage également, l'emploi des jeunes. Nous sommes dans le domaine du développement des chaînes de valeur agricole, l'agriculture durable, la sécurité alimentaire. Nous sommes également dans la nutrition et la santé communautaire de reproduction. Nous sommes dans l'eau, hygiène et assainissement. Nous sommes dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Avec aujourd'hui l'émergence de cette question du terrorisme, donc nous travaillons à assurer la cohésion sociale au sein des communautés pour que cela ne soit pas vraiment un terreau fertile pour voilà, le terrorisme. Voilà de façon globale ce que nous faisons au niveau de DEDAS.
Donc, vous intervenez dans pas mal de domaines, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres ONG qui opèrent sur le terrain?
Ce qui nous différencie essentiellement, c'est d'abord la qualité de nos résultats. Et nous fournissons des résultats de qualité à nos partenaires et même aux communautés que nous accompagnons sur le terrain. C'est également l'innovation. On fait en sorte que ce que telle organisation fait, nous ne fassions pas la même chose sur le terrain, que nous fassions autrement, que nous apportions vraiment des choses nouvelles aux communautés. C'est également la question de la durabilité. Lorsque nous nous retirons d'une communauté que nous avons appuyée pendant un certain temps, comment est-ce qu'on s'assure que même après notre retrait, les acquis, voilà, de nos interventions se poursuivent, que les communautés s'approprient vraiment voilà, ces acquis-là. Ce qu'il faut noter également, c'est la question d'intégrité. Intégrité. Aujourd'hui, vous avez des gens appellent même certaines ONG, ING, individus non gouvernementaux, c'est-à-dire n'ont pas une structure claire. On se permet de faire n'importe quoi avec les fonds des partenaires. Vous voyez, il y a des ONG, par exemple, qui, dans les projets qu'ils élaborent et qui soumettent aux partenaires, vous avez de ces ONG-là qui prévoient de donner un certain salaire aux agents sur le terrain, mais qui divisent par deux, qui divisent, pardon, par deux ou par trois ces salaires-là. Voilà. Ou bien ils donnent tout et demandent aux agents de terrain de revenir leur reverser quelque chose. D'ailleurs, ne faites pas des choses comme ça, par exemple. Ce que nous disons dans nos rapports, que nous avons atteint comme résultat, lorsque les partenaires vont sur le terrain, ils voient exactement ça. Donc voilà, donc c'est un peu ça ce que je peux dire, que la transparence, voilà, la transparence pour nous, c'est très important. La justice également. Ça veut dire que lorsque nous travaillons sur le terrain, nous travaillons à ce qu'il y ait de l'équité. Ceux qui jouissent moins de leurs droits, comment faire en sorte quand même que ceux-là puissent être les mieux pris en compte dans le cadre de nos interventions, que ce ne soit pas ceux qui sont toujours soutenus, que ce soit ceux-là qu'on continue pas soutenus. On essaie vraiment de faire voilà, cet équilibre-là. Donc voilà un peu, pour me résumer, nous avons les résultats concrets que nous fournissons aux partenaires et aux communautés. L'innovation que nous apportons, la durabilité des interventions, l'intégrité également, mais également la transparence. Voilà.
Intéressant. Comment votre travail est-il perçu par la communauté béninoise, notamment dans les zones où vous intervenez comme ONG chrétienne?
Je crois que si vous était possible d'aller sur le terrain, vous l'auriez constaté par vous-même que nos interventions sont très appréciées par la communauté. Les communautés sont très satisfaites de ce que nous faisons sur le terrain, que ce soit voilà, dans tous les domaines, en tout cas, sont très satisfaites. En témoigne, quand les partenaires vont sur le terrain pour poser des questions, même à notre insu, voilà, les communautés disent spontanément c'est des grâces. Il arrive que des partenaires qui veulent nouer un partenariat avec une organisation pour travailler dans un domaine donné, que ces partenaires-là aillent poser des questions sur le terrain aux communautés pour voir quelles sont les ONG qui interviennent dans votre localité et qui pourraient voilà, prendre part à tel projet que nous voulons mettre en œuvre. Spontanément, les communautés disent, ah, il y a des DRAS là qui font un beau travail, nous voulons que vous travaillez avec des DRAS. Donc je crois que c'est des témoins qui nous réconfortent et nous amènent à faire davantage, à nous engager davantage. Ce que n'est pas également, c'est que l'une de nos valeurs, c'est le sacrifice. Quelles que soient les adversités, les difficultés sur le terrain, les collègues sur le terrain se sacrifient de telle sorte que les résultats puissent être atteints. Voilà.
De manière concrète, quel est l'impact de vos interventions? Est-ce que vous
D'accord.
avez un cas concret, une histoire, une réalisation concrète? Oui.
D'abord, je vais parler de façon générale. Quand je prends le domaine de l'éducation, Nous avons aujourd'hui beaucoup de communes où le taux de scolarisation des enfants a connu du boom. Des communes où le taux de scolarisation était vraiment bas, ça a connu du boom à cause, disons, de nos sensibilisations sur le terrain pour amener les parents à scolariser leurs enfants. Mais également le taux de maintien des enfants à l'école. Une chose est d'envoyer les enfants à l'école. Il faut que les enfants soient maintenus. Il ne faut pas qu'à un moment donné, qu'on retire les enfants de l'école. Nous travaillons également sur ce pan-là de la question. Et véritablement, nous avons senti une amélioration du taux de maintien des enfants à l'école. La question également du taux de réussite. Le taux de réussite des enfants à l'école, on constate également que le taux s'améliore au fur et à mesure parce que nous organisons également des travaux dirigés au niveau des écoles avec la complicité des enseignants, bien entendu. Nous travaillons à ce que les parents suivent mieux leurs enfants à la maison, dans le suivi parental, pour que les performances scolaires des enfants soient vraiment au top. Dans le domaine, par exemple, de la protection des enfants, notamment la lutte contre le mariage des enfants. Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de projets financés par l'UNICEF qui, voilà, travaillent contre le mariage des enfants. Et à ce niveau-là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons mis en place dans plusieurs communes des comités villageois de veille. De telle sorte que lorsque les membres de la communauté sont au courant d'un cas, voilà, de mariage d'une fille qui est en train d'être planifiée, rapidement, ils alertent le centre de promotion sociale ou bien le commissariat. Et très rapidement, ce problème est géré, le mariage est déjoué. Ça, c'est un cas concret dont je vous parle. Il est arrivé parfois que, puisque nous, notre approche ou bien principe, c'est tolérance zéro mariage des enfants. Il est arrivé que les comités de veille dénoncent, voilà, alertent pour ces cas-là de mariage des enfants. Et que la situation, je vais dire, la situation soit déjà portée au niveau du commissariat ou parfois au niveau du tribunal. Parfois, c'est le maire. Parfois, c'est un député qui appelle pour dire, il semble qu'il y a appris qu'il y a tel cas que vous êtes en train de traiter. Je vous prie vraiment d'abandonner ça. On leur dit non. On n'abandonne pas parce que nous nous sommes engagés pour défendre les droits des enfants. On ne peut pas abandonner ça. Mais c'est eux qui finissent par abandonner parce que nous gagnons toujours. On fait en sorte que le projet soit conduit jusqu'au bout et que, voilà, les auteurs soient vraiment sanctionnés, soient mis en prison. Ça, c'est le succès. Chaque fois que nous nous en rappelons, ça nous fait plaisir, ça nous motive à continuer davantage.
Donc, le mariage des enfants au Bénin, comment est-ce que ça se présente? Est-ce que vous pourriez un petit peu développer davantage?
Le mariage des enfants, vous savez, au Bénin, la loi. D'abord, la loi au Bénin, c'est que toute personne ayant moins de 18 ans est considérée comme un enfant. Malheureusement, pour plusieurs raisons que je vais qualifier d'inadmissibles, hein, les parents se permettent de donner leurs enfants en mariage, soit parce que les parents en question n'ont pas suffisamment de moyens, mais voilà, celui-là qui voudrait marier leur enfant, voilà, est un peu aisé, il va leur donner de l'argent, ou bien parce que je vais dire, c'est un ami de la famille, on fait un truc, voilà, on s'entend, et puis bon, on donne l'enfant en mariage. Ou généralement, même c'est dans les familles musulmanes qu'on constate ça. Dans les familles chrétiennes, c'est très rare. Je n'en ai même jamais entendu parler. C'est ça aussi l'avantage d'écouter l'évangile. C'est vraiment important. Nous avons constaté que c'est beaucoup plus dans les familles musulmanes, les religions musulmanes, que le problème se pose. Qu'est-ce qui sous-tend ça? On dit, bon, oui, voilà, ce n'est pas bien que l'enfant tombe enceinte dans la maison de ses parents sans être mariée. Si elle est mariée, qu'elle tombe enceinte dans la maison de ses parents, c'est acceptable. Mais si elle n'est pas mariée et qu'elle tombe enceinte, ça, c'est pas bon. Et donc, déjà, lorsque l'enfant commence par avoir ses premières règles, on se dit là, il faut faire très attention. Dès qu'elle a les premiers menstrues, alors on se dit, c'est tellement qu'elle a déjà commencé par avoir des rapports sexuels. Il ne faut pas qu'elle tombe enceinte pendant qu'elle est chez les parents. Donc on n'hésite pas à donner, voilà, les
Donc,
enfants en
c'est à quelque
mariage.
sorte pour éviter la honte sociale.
Exactement, exactement. Mais ce qu'ils oublient, c'est que s'ils discutaient correctement, franchement et calmement avec leurs enfants sur les relations amoureuses, sur les relations sexuelles, il pourrait éviter cette situation-là, en fait. Mais malheureusement, comme vous le savez, en Afrique, c'est un sujet tabou. Qu'on dise que des parents s'asseyent avec leurs enfants pour parler de la sexualité ou bien des relations amoureuses, c'est un sujet tabou en Afrique et particulièrement en milieu Bariba, dans les zones du Nord Bénin, c'est vraiment tabou. Et donc, bon, voilà. C'est ça qui continue pas, disons, faire perpétuer, disons, ce problème du mariage des enfants. Donc, on préfère, comme je l'ai dit, c'est un milieu musulman que c'est beaucoup plus perçu. On préfère ne pas avoir honte et donc donner l'enfant en mariage rapidement. Donc, ça, c'est un élément, une raison, comme je l'ai dit. L'autre élément, c'est parfois la pauvreté. On donne l'enfant pour, voilà, pour être rémunéré par, voilà, le mari.
Mais dans ce contexte, est-ce que vous donnez des formations, vous organisez des séminaires dans les villages pour qu'on puisse essayer de changer les mentalités.
En fait, nous faisons un travail méthodique par rapport à ça. Lorsque nous arrivons en communauté, on fait ce qu'on appelle les dialogues communautaires. Les dialogues communautaires réunissent toutes les couches de la communauté. On identifie les leaders religieux, les imams notamment, même les leaders, les pasteurs, tout ça là, les prêtres, les leaders traditionnels également. On identifie également, voilà, les mères d'enfants, les papas, voilà, chefs de village, les différentes couches. S'il y a une association des jeunes, on identifie également les ressources de cette association-là. Et on fait un dialogue communautaire. En quoi ça consiste? On dit, bon, voilà, nous voulons aborder aujourd'hui la question du mariage des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Généralement, on commence par un sketch. Où, voilà, on introduit le sketch, on va voir. Le sketch permet de voir quelles sont parfois les causes et ensuite quelles sont les conséquences du mariage des enfants. Après ce sketch, on leur demande qu'est-ce que cela leur inspire. Et on leur demande comment est-ce qu'ils voient ce phénomène dans leur village. Quels sont les facteurs favorisant ce phénomène dans leur village? Quelles sont les normes sociales, voilà, religieuses, tout ça là qui favorisent cela? Et ensuite, quelles sont, disons, les normes sur lesquelles on peut également se positionner pour lutter contre ce phénomène-là. On met les gens par groupe et les gens discutent et viennent restituer en groupe. Et à l'issue de tout cela, tout le monde se rend compte que ce phénomène n'est pas bon. Comment est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce phénomène? On élabore un plan d'action et ce plan d'action-là est mis en œuvre. Comment ce plan d'action sera mis en œuvre? On met en place un comité villageois de veille et de protection des enfants. C'est ce comité-là qui va se charger, qui sera responsabilisé pour mettre en œuvre le plan d'action qui est élaboré. Et ce comité également a pour rôle de recenser les cas d'abus des droits des enfants lorsque on alerte ce comité-là sur le fait qu'un enfant est sur le point d'être marié. Le comité recense et alerte le centre de promotion sociale ou bien le commissariat de police pour que voilà, les procédures qu'il faut soient engagées. Nous mettons également, nous formons hein, aussi les leaders religieux, notamment les imams, de telle sorte que nous mettons également à leur disposition des registres. Pour que, puisque si les imams doivent faire le mariage, on leur impose désormais de pouvoir écrire le nom, et la date de naissance ou bien l'âge des mariés. Pour que quand on va passer, on s'assure que ceux qui ont été mariés par l'imam, le mariage religieux bien sûr, ceux qui ont été mariés par l'imam ou bien le prêtre, ont l'âge requis, c'est-à-dire au moins 18 ans pour être marié. Et donc nous donnons des formations également à ces leaders-là. Et on fait en sorte que lors des prêches, les vendredis ou bien les prêches lors des cérémonies de baptême et autres là, que les imams puissent également parler de la question du mariage des enfants comme étant un phénomène à bannir. Dans les églises également, pour que les pasteurs ou bien les prêtres puissent également parler de ce phénomène-là. Donc voilà un peu ce que nous faisons. En dehors de ça, comme je le disais, on met en relation également les centres de promotion sociale avec le comité villageois de veille pour que lorsqu'il y a un cas rapidement, ils alertent voilà, ces structures-là, c'est-à-dire le centre de promotion sociale et puis les commissariats de police. Nous travaillons également avec les tribunaux pour mineurs surtout, de telle sorte que lorsqu'il y a ces cas-là, la procédure soit accélérée. Pour que vraiment on puisse cerner l'auteur de ces cas-là. Donc voilà un peu ce que nous faisons.
Cher ami auditeur, auditrice, Je vous rappelle que nous recevons Kayode Raoul Balogun à Je crois donc je parle. Raoul, j'imagine qu'en vous attaquant à ce phénomène social, vous attirez la foudre. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans le cadre de l'exercice de votre fonction comme ONG chrétienne qui tente d'adresser des problèmes sociaux majeurs?
Déjà, peut-être, comme je le disais, ce phénomène-là, c'est beaucoup plus en milieu musulman. Nous sommes une ONG chrétienne, c'est vrai, mais quand nous allons sur le terrain, nous ne cachons pas cette identité. On dit clairement qu'on est ONG chrétienne. Mais quand nous allons sur le terrain, on ne leur parle pas de Jésus, de l'Église, tout ça, pour les apaiser, pour leur montrer qu'on ne vient pas pour les, voilà, christianiser.
Mais vous essayez de véhiculer les valeurs chrétiennes
Tout à
comme
fait.
l'intégrité, la
Exact,
justice.
exactement. Alors, comme vous le savez, on dit que les habitudes ont la peau dure. Donc, des gens qui ont déjà une certaine habitude depuis 50 ans, 60 ans, vous venez pour un projet de 1 an, 2 ans, c'est pas toujours évident que tout change. C'est pour ça que nous sollicitons véritablement l'engagement des autorités locales, des autorités communales. Nous savons que si ces autorités-là s'engagent, on est sûr que les choses vont changer. Je vais vous donner un petit exemple. Dans une commune du Bénin, commune dans l'extrême nord du Bénin, qui fait frontière avec le Niger et même avec le Burkina, nous avons mis en œuvre ce projet-là, financé par l'UNICEF, qu'on a appelé Tolérance zéro mariage des enfants. Les gens se sont opposés, il y a eu tellement d'adversité. Un jour, un collègue était allé sur le terrain travailler dans le cadre de ce projet. Il revenait du terrain, d'un village donc, sur la route, il a été intercepté par des individus, trois personnes, trois hommes, qui étaient masqués et qui lui ont lancé, c'est vous qui nous empêchez de marier les filles, non, dans la commune de Carmont. Vous allez voir, vous allez voir. Ils ont voulu l'assaillir, l'attaquer, mais il a réussi à fuir, il a abandonné sa moto pour se réfugier dans le village voisin. Et il y a beaucoup de menaces comme ça que les collègues reçoivent sur le terrain, dans d'autres villages, des menaces de mort. Bon, mais on est engagé, on est engagé, c'est.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à défendre ces causes?
D'accord. Alors, ce qui nous motive, comme je le disais tout à l'heure, dans notre mission, c'est vraiment la justice, faire en sorte que tout le monde jouisse pleinement de ses droits, surtout les plus vulnérables. On ne peut pas avoir Cotonou, une ville, la métropole du Bénin, les enfants qui vont à l'école, qui ne se, les enfants, on ne permet pas aux enfants de se marier là-bas. Les enfants sont épanouis et que dans d'autres contrées du même pays, que certains ne jouissent pas de leurs droits, c'est pas normal. Nous, nous pensons que il faut faire en sorte que les enfants jouissent pleinement de leurs droits. Et marier un enfant, c'est l'empêcher de jouir de ses droits. Marier un enfant, c'est qu'on est en train d'hypothéquer son avenir. Donc ça, d'abord, c'est un élément qui nous motive vraiment à travailler dans cette thématique-là. L'autre élément, c'est que lorsque nous arrivons à sauver des enfants de ce phénomène-là, et que ces enfants évoluent à l'école, pour nous, c'est une fierté. Des enfants qui auraient pu être mariés, qui allaient tabasser à longueur de journée par leur mari dans leur ménage, on se rend compte qu'on a pu les sauver de cette situation et continuer correctement leur cursus scolaire. Pour nous, c'est une fierté. Si nous avons pu réussir à certains endroits, on se dit, ça veut dire qu'on peut réussir également ici. Donc, ça fait que nous sommes motivés également à bêtement travailler dans ce sens-là.
Je suis vraiment encouragé par ce que vous faites. Je pense que c'est une manière très noble d'adorer Dieu en servant les opprimés, les démunis et en essayant d'apporter des réponses holistiques à des problèmes sociaux qui gangrènent nos sociétés. Je pense que nous avons besoin des hommes comme vous, des chrétiens comme vous, imprégnés des valeurs bibliques ou chrétiennes et qui s'engagent dans la transformation de leur communauté. Vous êtes à Abidjan pour prendre part dans une formation appelée PLM, Programme de Leadership et de Management. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience dans cette formation? Quel impact a-t-elle sur vous?
Cette formation, si elle n'existait pas, il fallait l'inventer.
L'inventer.
Il fallait l'inventer. C'est vrai que j'ai eu à suivre pas mal de formations dans ma vie. Il faut d'abord dire qu'à Dédra, je suis directeur de suivi des projets. Donc, suivi et développement des projets. Tout ce qui est élaboration des projets, je conduis le processus, je coordonne le processus. Tout ce qui est également mise en œuvre des projets, c'est moi qui assure la supervision des projets au niveau de DEDRAS, l'organisation dont je parle. Alors, en tant que tel, je crois que je suis quand même un leader. C'est-à-dire que je suis un leader, je suis un manager également. Il me faut renforcer mes capacités sur ces questions-là pour mieux conduire les équipes qui sont sous ma responsabilité. Je me disais, si cette formation n'existait pas, il fallait l'inventer. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses dans le cadre de cette formation, notamment la valorisation. Nous ne valorisons pas souvent les collègues avec lesquels nous travaillons. Et cela peut ne pas les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes et atteindre les résultats. Donc, je crois que c'est une chose que moi, j'ai apprise ici. Je l'avais déjà appris, mais la pratique, c'était pas ça. La pratique la formation est axée sur la pratique ici. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la question de la valorisation. Il y a également, je vais dire, la question des relations. Vous voyez, je peux être en train de voyager dans le bus, avoir quelqu'un assis à côté de moi, on peut passer 8 heures de temps, ce sera juste bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore fini la formation, mais je suis pratiquement bavard. Je me rends compte que je vois déjà, si jamais je dois voyager dans un bus avec quelqu'un, comment je vais embêter la personne. Donc ça me permet vraiment de tisser les relations. Voilà, je crois que c'est très bien. Avant, c'était pas la peur, mais c'était beaucoup plus la timidité. J'ai été élevé dans une atmosphère de timidité. Donc, je crois que je suis en train de briser cette barrière-là. Voilà, cette atmosphère-là. Et je n'ai plus de barrière maintenant pour aller, voilà, rencontrer des gens, discuter avec les gens, demander qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils font ça, et voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Je n'ai pas de barrière à aller parler également de mon organisation et de moi-même personnellement. Donc, je crois que cette formation m'a beaucoup fait du bien. Nous avons également parlé, nous avons dans le week-end eu voilà, un moment de solitude qui m'a beaucoup apporté spirituellement. Ça m'a permis de, voilà, de faire du vide dans ma tête, de revoir ma vie, comment est-ce que ma vie spirituelle est, la vie de ma famille, mon ministère, tout ça. J'ai réfléchi à tout ça et Dieu m'a révélé des choses que je dois revoir dans ma vie. Je n'ai jamais fait une telle expérience. J'ai l'habitude de jeûner, de prier, mais cette solitude où il faut couper les portables, ça, je ne l'ai jamais fait pour faire du vide dans sa vie. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Voilà. La communication également, voilà. Comment communiquer? Franchement, c'est une formation. Si ça n'existait pas, il fallait l'inventer.
Qu'est-ce que vous ferez différemment après cette formation?
Ce que je ferai différemment, c'est déjà que je vais éviter à l'avenir de critiquer ou de condamner les gens. Même si ils n'ont pas tout à fait raison, je dois trouver la manière pour véritablement dire aux gens comment on peut mieux faire. D'abord, valoriser, on l'a dit, il faut apprendre également à détecter les qualités des gens et leur dire également que vraiment ces qualités-là, ils l'ont. C'est très important. Nous nous focalisons tout le temps sur voilà, les défauts. Non, tu as mal fait ceci, toi là, tu n'es pas celui-là. Je crois qu'on doit désormais, j'ai appris et je vais le faire, ça c'est clair, à dire aux gens, tu as telle qualité, c'est très bien, continue comme ça. Si je souhaite que des gens changent quelque chose dans leur façon de faire, je ne vais pas dire, tu as mal fait ceci, ce n'est pas bon. Je trouverai une stratégie pour leur dire cela. Pour moi, c'est déjà un élément très fort. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Je crois que par rapport à la motivation des gens également, nous avons vu ce qu'on appelait RISPP face à des gens qui ont cette attitude-là de rejet, d'indifférence, de scepticisme, de procrastination, et puis j'ai oublié le dernier P. Voilà les attitudes qu'il faut
La
avoir,
peur.
voilà la peur, l'attitude qu'il faut avoir envers ceux-là également, notamment AICDE. Éveiller l'attention, susciter l'intérêt, ICC, la conviction, créer la conviction des
Le désir.
le désir et ensuite l'engagement. Je crois que c'est des éléments que je peux utiliser pour convaincre même les partenaires. Des éléments qu'on peut utiliser pour convaincre les partenaires. Je crois que c'est vraiment formidable. Parfois, lorsque vous venez parler aux gens, Moi, j'ai cette habitude-là. Hein. Et que tout de suite, on rejette ce que j'apporte comme idée, j'ai tendance à m'énerver. Au lieu de s'énerver, il vaut mieux se calmer maintenant et voir quels sont les besoins de la personne, comment est-ce qu'il faut lui montrer que c'est un besoin, ainsi de suite. Je crois que c'est des éléments que je vais pouvoir
Parce que
pratiquer.
faute d'arguments, parfois on devient violent.
Exactement, exactement.
Franchement, merci beaucoup, Raoul. Est-ce que vous auriez un mot, un dernier mot à adresser à l'endroit de l'Église de Jésus-Christ et à l'endroit de nos chers pasteurs en particulier, et par rapport au paradigme du développement, engagement social de l'Église, etc.
Je crois que ça me ramène au passage que vous avez lu au départ pour dire que Dieu a dit qu'il est celui qui est le Dieu de l'or et de l'argent. Il dit que nous sommes ses enfants. Si nous sommes ses enfants, c'est que l'or et l'argent nous appartiennent. Et si nous vivons dans ce monde, c'est que nous pouvons jouir également de l'or et de l'argent. Moi, je crois que c'est une fausse doctrine que de penser que quand on est chrétien, il faut penser uniquement au salut. Il faut penser au salut, ça là, c'est quand on sera au ciel, bien sûr, bien, n'est-ce pas? Mais quand, pendant qu'on est sur terre, on doit vivre. Et il faut que les gens voient la gloire de Dieu en nous. Et cette gloire-là, c'est déjà à travers la jouissance, voilà, notamment de l'or et de l'argent dont on parle, c'est-à-dire la prospérité, la santé et autres. On ne peut pas être tout le temps dans la souffrance et dire qu'on reflète la gloire de Dieu. Donc, pour moi, je pense que ces pasteurs, bien ces églises-là, qui ne prêchent que le salut, il faut qu'ils comprennent qu'il faut prêcher également le développement intégral, le développement holistique.
Je dirais, c'est plutôt leur conception du salut qui mérite d'être révisée, parce que
Exactement.
c'est pas qu'il y a le salut d'une part et puis il y a le développement d'autre
Voilà.
part. Donc c'est notre manière de comprendre le
Exact,
message du salut qui est
exact,
important.
exactement. Cela veut dire aussi que il faut peut-être dans les instituts bibliques ou bien, si ça ne se fait pas, que davantage on parle de ces choses-là également aux élèves pasteurs. Parce que c'est ça qui malheureusement conduit les gens vers les églises qui font de la prospérité, comment on appelle ça?
L'évangile de
Évangile de
prospérité.
prospérité, très bien. Où on dit, vous venez à moi. Vous n'avez pas de mari, vous aurez de mari, vous n'avez pas d'enfant, vous aurez d'enfant. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus les femmes même qui sont plus tentées par ces choses-là. C'est beaucoup plus les femmes. Ton copain ne marche pas, viens, on va faire truc. Bon, voilà. Donc je crois que il faut que dans nos églises prennent en compte ces éléments-là. Non seulement enseigner vraiment la parole dans son entièreté, le salut, mais également les initiatives entrepreneuriales. Comment former les jeunes ou bien les femmes sur comment on peut développer des activités de revenus, des éléments, je crois que l'Église doit commencer par faire en principe. Ça ne coûte rien d'inviter quelqu'un, un spécialiste du domaine, pour former. Par exemple, notre Église, moi, Parakou, au Bénin, bon, pas Parakou, je vais dire au Bénin, l'UEB, c'est dans tout le Bénin, a une structure qu'on appelle Vision Néhémie. Donc, c'est une structure, voilà, qui forme les jeunes, selon les demandes, qui forme les jeunes, qui forme les femmes, sur voilà l'entrepreneuriat, sur différentes activités pour que. Parce que vous voyez, nos églises demandent aux gens d'apporter de l'argent. Mais si les gens n'ont pas de l'argent, ils vont faire comment? C'est compliqué. Vous demandez aux gens d'apporter de l'argent. Au même moment, vous dites que c'est seulement le salut, on n'a pas besoin, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie le paradigme. Sinon, nous aurons beaucoup de personnes qui vont se mettre dans la gueule du loup. C'est-à-dire ces églises-là qui prêchent l'évangile de prospérité. Donc, je voudrais encourager vraiment nos pasteurs à changer vraiment de paradigme, c'est vraiment important.
Merci beaucoup. Caillot de Raoul Balogun, ce
Merci.
fut un plaisir pour nous de vous recevoir à Je crois donc je parle. Je vous
Merci.
souhaite du courage et heureux
Merci.
combat.
Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci d'avoir échangé ce moment avec moi.
Chers amis auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouvel épisode.
Beaucoup de nouveaux disciples de Jésus-Christ sont laissés à la merci des circonstances, incapables de développer une mentalité chrétienne pour pouvoir mieux se positionner dans un monde de plus en plus séculariste et postmoderne. Comment parvenir à défendre l'espérance chrétienne dans le respect et avec douceur? Comment se positionner bibliquement par rapport à des thématiques d'importance comme l'économie, la politique, la culture, l'art, l'histoire, le problème du mal, le relativisme moral et le rapport entre la foi chrétienne et la science? Pour vous aider à mieux réfléchir sur ces grandes thématiques, Wendell Benjamin Etienne vous propose son deuxième ouvrage titré « Faiseur de disciples » ou « Faiseur d'aliénés », petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple. Préfacé par le docteur Leslie Jules, apologète chrétien, Wendell invite le lecteur à explorer la foi chrétienne dans le but de construire des convictions chrétiennes sur des évidences solides à partir de la Bible, de l'histoire, de la raison, de la science et des expériences de chaque jour. L'auteur croit et affirme que l'évangile est une bonne nouvelle par définition étymologique et dans la réalité. Il doit être donc une expérience vécue ici et maintenant dans la perspective de l'éternité en toute liberté. Il n'y a que le Fils de l'homme qui a franchi et qui rend réellement libre. Sans plus tarder, sortez votre carte de crédit ou de débit et placez votre commande sur Amazon. La version brochée est au prix de $20 US et la version e-book ou version électronique $15 US. Faisons des disciples conformément au plan du Maître. Soyons des disciples réellement libres.